poser le micro d'habitude. Je... La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, en Jésus, notre frère et notre maître. Bienvenue à vous toutes et tous ici ce matin à l'Oratoire du Louvre et bienvenue à vous qui êtes en ligne avec nous, peut-être très loin. Je parlais hier avec des paroissiens à New York et nous saluons particulièrement toutes les familles qui sont là-bas en ce moment, peut-être un peu inquiète de la situation entre nos pays, et nous voulons les assurer de la communion fraternelle avec eux, même au loin. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Fakher Korshan. Bienvenue, Fakher. Vous le connaissez déjà pour certains, vous êtes déjà venus l'écouter ici. Il est président de l'Association pour la renaissance de l'islam mutazilite, ARIM, et penseur d'un un islam libéral, dirions-nous, un islam qui nous permet de réfléchir sur les textes et d'avoir une pensée critique sur certains textes au sens scientifique du terme, au sens où nous le faisons nous-mêmes, ici même, pour les textes de la Bible. Il est auteur d'un livre que nous allons présenter tout à l'heure, Épître aux musulmans perplexes, et nous verrons quelle est cette perplexité et comment Fakher a essayé avec beaucoup, beaucoup de talent. Vous découvrirez un livre extrêmement important et que je vous conseille vraiment d'acheter à la librairie dès ce matin si vous le souhaitez, parce que c'est un livre important pour notre pensée sur l'islam. Et il a écrit ce livre et nous le présenterons tout à l'heure à la suite de ce culte. Fakher, bienvenue encore une fois ici. Bienvenue et merci d'être avec nous ce matin pour nous proposer une réflexion sur des sourates du Coran. Peut-être que ça peut surprendre dans un temple protestant, dans une tradition chrétienne, de prêter la chair à quelqu'un qui n'est pas de notre religion. Mais il me semble que c'est le mouvement même de notre confession protestante libérale qui est fondée sur l'intelligence des textes et qui témoigne de la foi en Dieu et de l'humanisme avec lequel nous lisons les textes. C'est le fondement même de s'ouvrir aux autres et d'avoir la curiosité et la bienveillance nécessaire pour écouter la parole de l'autre, d'une autre religion, et pour pouvoir faire place à la foi d'autres croyants pour rappeler aussi que nous ne sommes pas seuls dans la foi, mais que beaucoup d'autres croient en Dieu et qu'ils croient d'une façon peut-être différente, mais avec la même ferveur. Et je crois que nous partageons cela, nous préparons toujours ces cultes, je tiens à le dire aussi, dans une entrevue de préparation de ce temps de culte pour que nous nous relions l'un à l'autre spirituellement dans les études respectifs que nous avons l'un et l'autre, pour pouvoir regarder ce qui est le plus approprié de dire, de prêcher ici, dans ce lieu, quand pour un penseur musulman, ce n'est pas simple de se mettre dans une chair chrétienne et d'annoncer une parole qui est toujours une parole fraternelle et de paix avec Fakher, ça c'est certain, et aussi de prêcher avec une intelligence qui puisse être partagée avec ceux qui sont ici. Alors, merci d'avoir le courage, je tiens à le dire, parce qu'il faut du courage pour faire ces actes. Nous le voyons dans notre propre confession protestante. Donner la possibilité, prêter la chair à une personne qui vient d'une autre religion n'est pas bien vu par tous. Dans notre confession même, dans le protestantisme et même dans le protestantisme de l'Église protestante unie de France. Et je peux comprendre ces réticences, mais quel gain pour nous, quelle richesse pour nous de pouvoir dire que nous pouvons partager la parole, nous écouter les uns les autres et être un peu plus intelligents sur ce que nous avons à dire de la foi des autres. Je crois que ça reste une conviction très profonde pour moi, mais pour beaucoup ici, je suis sûre de cela. Ce matin, c'est Sarah Kim qui est avec nous et qui nous a introduit dans ce culte avec l'orgue et qui nous a introduit avec cette très belle œuvre qu'elle a jouée ce matin. Et elle va accompagner ce temps de culte tout du long. Réunissons-nous donc dans la communion fraternelle avec le premier répond que vous trouvez au début des psautiers français. Vous avez toute la liturgie pour celles et ceux qui sont nouveaux ici ce matin, qui viennent pour la première fois. Et vous pouvez trouver donc tous les réponses que nous chantons après les prières. Voilà, je vous invite à vous lever. Nous louons Dieu avec le psaume 19 du chef de chœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu, la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Le jour l'annonce au jour, la nuit l'explique à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur voix. Leurs mesures apparaissent sur toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. C'est là qu'il a placé une tente pour le soleil. Celui-ci, tel un marié sortant de sa chambre, tout content, se met en route, tel un vaillant guerrier. Il s'élance des extrémités du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien n'est à l'abri de sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure la vie. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage le naïf. Les directives de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il fait briller les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à jamais. Les règles de l'Éternel sont vérité, elles sont toutes justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel. Que le miel qui coule des rayons. Moi-même, ton serviteur, je suis averti par elles. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui peut connaître ces erreurs involontaires? Tiens-moi pour innocent de ce qui m'est caché. Préserve-moi aussi des gens arrogants, qu'ils ne dominent pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de toute transgression grave. Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés de toi, Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Et je vous invite à chanter le psaume 107, les strophes 1, 2, 3 et 4. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons ce que nous disent les Écritures de la volonté de Dieu. D'âge en âge, il nous est répété « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton intelligence, et aime ton prochain comme toi-même. » Nous nous présentons devant Dieu. Avec confiance, nous lui remettons nos difficultés pour être dans son alliance. Qui sait ce qu'il croit est juste? Éternel. Qui pourrait dire que sa vision de foi est la seule qui te reflète fidèlement? Chaque fois que tu m'inspires, ta parole est vraie pour moi, telle que je la reçois. Mais elle est vraie aussi quand tu inspires un autre, une autre, dans une autre contrée, dans un autre pays, dans une autre langue ou une autre culture. Pardonne l'arrogance qui nous saisit parfois et nous laisse penser que nous sommes les seuls à te connaître. Pardonne notre manque de curiosité, notre foi arrivée, notre orgueil spirituel. Éternel, devant l'intolérance, la défiance et les violences faites en ton nom, ne romps pas ton alliance avec les croyants du monde entier qui te cherchent et font parfois comme s'ils te possédaient. Que ta foi en nous, qui nous connaît dans l'intimité du cœur, ne se lasse jamais de croire en nous, puisque nous peinons tant à croire pleinement en toi. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir ces paroles de grâce qui nous sont renouvelées dans la parole de Jésus quand il dit « L'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. » Et Jésus ajoute « Aujourd'hui, cette parole, quand vous l'entendez, est accomplie. » Qu'ainsi tous ceux, toutes celles qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus qui est le Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Que toutes celles et ceux qui se sentent captifs, captives, sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu. Car aujourd'hui, cette parole est accomplie pour nous toutes et tous. Amen. Et nous restons debout pour partager ces paroles de foi. Éternel, je crois que tu es le Dieu un, le même hier, aujourd'hui et demain. Je crois en ton amour unique pour tous les êtres humains. Je crois que nos religions sont nos langues pour dire ta grandeur et ta gloire. Et je crois que si j'étais née en un autre temps, en d'autres lieux, j'aurai une autre langue pour dire ma foi en toi. Mais je crois que tu serais toujours Dieu pour moi. Je crois en une amitié entre les croyants toujours possible, en un dialogue entre les chercheurs de vérité toujours possible, en une paix entre les religions toujours possible. Je crois en une liberté religieuse toujours possible, en une religion utile pour le monde, en une critique théologique bénéfique pour tous. Mais je crois qu'il n'est pas possible d'y arriver sans l'amour du prochain que tu inspires à toutes et tous et qui reste si difficile à vivre réellement. J'ai foi en la bonne volonté de celles et ceux qui sincèrement cherchent à dire l'indicible de ta présence à leur côté. Je crois en Jésus qui est un frère pour moi, qui est un prophète pour d'autres. Et je n'affirmerai pas que j'ai raison contre eux, car ni eux ni moi ne pouvons prouver que nous avons raison quand nous parlons de toi. Mais toujours, j'affirmerai que nous avons raison de chercher ensemble, même dans des langues différentes de foi, pour trouver ensemble un chemin vers toi. Amen. Voilà, je vous invite à vous asseoir et je vais inviter Fakhar à s'installer en chaire pendant que je dirai cette prière de Mansour al-Hajj. Mon Dieu, fais-moi sortir des ténèbres vers la lumière, éclaire mon cœur par la science. Donne-nous la lumière par laquelle nous serons dirigés vers toi. Mon Dieu, mets ta lumière en mon cœur, lumière dans mes oreilles, lumière dans mes yeux, lumière sur ma langue, lumière sur ma droite, lumière sur ma gauche, lumière au-dessus de moi, lumière en dessous de moi, lumière devant moi et derrière moi. Mets dans mon âme la lumière, inonde-moi de lumière. Seigneur, dilate mon cœur et aide-moi à bien agir. Mon Dieu, je t'en prie, mets ta lumière dans notre vie, la lumière à notre mort. Que la lumière soit dans nos tombes et au jour de la résurrection. Amen.
Bonjour à tous. Merci au temple de l'oratoire de m'avoir invité de nouveau. Je vais commencer par ma formule liminaire. Vous m'entendez bien ? Plus haut comme ça ? D'accord. Donc avec le nom de Dieu, le clément, le tout compassion, louange à Dieu, auprès de qui nous cherchons soutien, guidance et miséricorde, c'est en lui que nous prenons refuge contre les maux de nos passions. Et comme on dit, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, c'est-à-dire que la paix de Dieu et sa grâce soient sur vous. Oui. Je parle plus fort ou... Je peux crier si vous voulez, mais je ne suis pas sûr que... Ça peut être intéressant comme exercice, ceci dit. Bon, je vais essayer de parler un peu plus fort. J'ai été invité ici depuis un moment, et donc on n'avait pas prévu ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, c'est une journée très particulière, puisque c'est aujourd'hui que sont organisées sur toute la France des marches contre l'islamophobie, suite à des discours et suite à ce qui s'est passé avec le jeune Aboubakar Cissé qui a été tué dans une mosquée. Bref, tout ça pour dire que nous sommes dans un moment qui est assez tendu par rapport à quand on voit les choses dans une perspective musulmane. Et c'est vrai que depuis, j'allais dire ces derniers jours, ces derniers mois, mais en fait, ce sont ces dernières années, on entend des choses sur l'islam qui sont assez incroyables. Par exemple, les termes qui font peur, mais qui ne sont jamais vraiment définis, comme islamisme, entrisme frériste, qu'est-ce que ça veut dire ? Djihadisme d'atmosphère, alors là, on a atteint le sommet. Et tout ça, en fait, crée un climat qui fait que quand on parle d'islam, on ne sait plus trop vraiment de quoi on parle. Quand on parle de musulmans, on ne sait plus trop vraiment de quoi on parle. Quelle est la différence entre quelqu'un qui veut pratiquer sa foi, juste pratiquer sa foi, et quelqu'un qui veut faire de l'entrisme islamiste ? On ne sait plus, en fait. On ne sait plus. Donc ici, je me suis dit que ce que j'allais vous proposer, c'était de prendre un temps de respiration, en quelque sorte. Et ce temps de respiration, il va passer par les textes, comme l'a rappelé Béatrice. Donc ce que je vais vous proposer, c'est essayer de voir ce que dit le Coran de la notion de musulman. C'est quoi un musulman ? Un musulman ou une musulmane ? Et d'autant plus que je vais vous lire quelques passages qui vont peut-être vous poser question. Dans le Coran, dans la sourate La famille d'Imran, la troisième sourate du Coran, au verset 52, il est dit « Mais quand Jésus... alayhi salam, que la paix soit sur lui, eut essuyé d'eux, des juifs auxquels il s'adressait, auxquels il essayait de prêcher la parole. » Donc je reprends. « Mais quand Jésus, alayhi salam, eut essuyé d'eux la dénégation, il dit, « Qui prend mon parti pour aller à Dieu ?» Les apôtres dirent, « Nous prenons le parti de Dieu. Nous croyons en Dieu, témoigne que nous sommes de ceux qui s'en remettent à Dieu. » Et qui se dit en arabe, Muslimoun. Plus loin, au verset 67, donc dans la même sourate, voilà ce qui est écrit. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais c'était un croyant originel, Hanifan, un de ceux qui s'en remettent à Dieu. Le terme en arabe, musliman. Muslim. Donc on voit dans le texte coranique, ce sont deux exemples, mais en fait on pourrait en prendre d'autres. Sur tous les prophètes, on pourrait prendre d'autres exemples. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le terme dans le Coran, c'est muslim, musliman, qui sont des déclinaisons, enfin, muslim, a été traduit par certains traducteurs par musulman. C'est-à-dire que quand vous prenez certains Corans en français, vous lisez le passage, il est dit, les apôtres dirent, nous sommes musulmans. Vous voyez que quand on lit ça, on se dit, c'est quand même un petit peu bizarre, parce que l'islam tel qu'on le connaît est apparu bien après l'époque de Jésus, ne serait-ce que ça. Alors la question qu'on se pose, c'est, partant de l'idée que le musulman aujourd'hui est celui qui ou celle qui adhère à ce qu'on appelle les cinq piliers de l'islam, donc les cinq piliers, l'attestation de foi, il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est le messager de Dieu, la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage à la Mecque, qui sont les cinq donc, piliers, quiconque se veut musulman, chiite, sunnite, ibadite, peu importe les branches, se rattache à ces cinq piliers. Donc là, quand on sait ça et qu'on lit les passages coraniques qui nous disent que les prophètes étaient musulmans, on a un peu de mal à comprendre. Alors du coup, ce que je vais vous proposer, c'est essayer de voir que veut dire le Coran par le terme de muslim. Et pour ça, et est-ce que ça veut vraiment dire, est-ce que muslim est un équivalent de musulman? J'ai oublié de mettre mon chronomètre. Est-ce que c'est un équivalent? Eh bien justement, pour voir ça, je propose trois passages. Le premier est tiré de la sourate, le pèlerinage, la 22e sourate. Alors, on ne va pas analyser des sourates. Les sourates, c'est très long, c'est dans les chapitres. Ça dépend desquels, mais c'est assez long. Donc, on va analyser des versets. Le verset 77 et 78, qui va nous donner une sorte de récit cadre, en quelque sorte, sur qu'est-ce que musulman veut dire. Le deuxième passage tiré de la sourate Jonas, qui va insister sur une notion qui est fondamentale pour comprendre ce que c'est l'islam, c'est celle de tawakkul, mais j'y reviendrai. Et le dernier passage, qui est non des moindres, qui est un passage qui prend en charge la question homme-femme, sur la question de qu'est-ce qu'un musulman et qu'est-ce qu'une musulmane. Pardon. Donc ça me paraissait important de rappeler pour un peu tordre le cou à certaines idées qu'on entend en boucle sans cesse et auxquelles certains musulmans finissent par adhérer d'ailleurs. Pour commencer, le premier passage, je vous lis les deux versets qui le constituent. Croyants, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur, faites le bien dans l'espoir de triompher. Le deuxième verset de ce passage, efforcez-vous en Dieu du vrai de son effort, il vous a élu, il ne met aucune gêne pour vous dans la religion, en tant que fidèle à la communauté de votre père Abraham, c'est lui qui jadis vous a nommé ceux qui s'en remettent à Dieu, donc muslimin. Quand cela, l'envoyé soit votre témoin, et vous les témoins des hommes, élevez la prière, acquittez la purification, faites de Dieu votre rempart, il est votre maître, heureux maître, et sûr secourant. Donc, je reviens au premier verset. Croyant, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur, faites le bien dans l'espoir de triompher. Dans ce passage, qui est assez court, qui est assez résumé, c'est l'aspect d'abord culturel qui est pris en charge. L'inclination, la prosternation, l'adoration, c'est ici, il s'agit du rapport vertical qu'on a à Dieu. Le bon comportement du croyant ou de la croyante vis-à-vis de son Seigneur. Puis il est dit, faites le bien. Ce commandement-là, ce faire le bien, ici, encore une fois, c'est un verset qui est très résumé, qui est très synthétique. Mais cette notion-là, elle va revenir dans le Coran de façon répétée. Et cette notion-là va donner ce qu'on appelle l'ihsan. Ihsan, c'est le bel agir. Et le bel agir est tellement important dans la religion musulmane que quand on va définir l'islam, on vous dit que l'islam se compose sur trois piliers, en quelque sorte, qu'on appelle l'iman, l'ihsan ou l'islam. L'iman, c'est la foi, je reviendrai évidemment. L'ihsan, c'est le bel agir. L'islam, c'est, on va dire, la pratique à la fois culturelle, mais aussi la manière d'être au monde. C'est vraiment le côté actif, comment on vit, comment on agit. Donc vous avez la foi, l'action, et vous avez la foi, l'action, et dans cette action, elle est divisée en deux, c'est l'action vers Dieu, ce rapport vertical, et le rapport vis-à-vis d'autrui. Et donc, ça, c'est un rapport horizontal. Petite note intéressante. Ibn Arabi, le grand mystique andalou, disait que la croix était un symbole qui était plus pour les musulmans que pour les chrétiens. Mais dans son esprit, c'était que la croix représentait à la fois le rapport vertical et justement le rapport horizontal. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant pour voir à quel point cette notion-là est importante dans l'islam, la notion de bel agir. Autre chose pour expliquer le bel agir, le Coran prend en charge cette question-là de la belle action. On trouve une très belle définition qui est dans la sourate Fussilat, qu'on traduit par « il s'articule ». C'est la sourate 41. Et voilà ce qui est dit au verset 34. « Belle et mauvaise action ne s'équivalent. Repousse la mauvaise par une belle, et voilà que celui qu'opposait à toi l'inimitié mutuelle prend les traits d'un allié chaleureux. » C'est-à-dire qu'ici, dans ce verset, ce qui est mis en place, c'est que ce qui est dit, c'est que le bien et le mal, qu'on a tendance à présenter comme une sorte d'équilibre, ici, le texte nous dit non, il n'y a pas d'équilibre. Le bien est supérieur au mal. Il faut, à une mauvaise action qu'on vous fait, répondre par une bonne. Ça rappelle un peu le sermon sur la montagne de Jésus. Donc la question, c'est le bien reste supérieur au mal. Et donc, privilégier toujours le bien. Ça explique aussi pourquoi le bel agir a une importance aussi grande dans la définition, dans la compréhension de ce qu'est l'islam. Le deuxième verset, « Efforcez-vous en Dieu du vrai de son effort. Il vous a élu, il ne met aucune gêne pour vous dans la religion, en tant que fidèle à la communauté de votre père Abraham. C'est lui qui jadis vous a nommé ceux qui s'en remettent. » Alors je prends la traduction de Jacques Berck. Jacques Berck est traduit par « ceux qui se soumettent », mais je vous expliquerai pourquoi ça ne me convient pas. « Ceux qui s'en remettent, donc à Dieu, muslimine, quand cela l'envoyé soit votre témoin, et vous les témoins des hommes, élevez la prière, acquittez la purification, faites de Dieu votre rempart, il est votre maître, heureux maître, et sur ce courant. » Donc dans ce deuxième verset, la formulation qui l'ouvre, « Efforcez-vous en Dieu du vrai de son effort. » En arabe, je vais vous la dire en arabe, juste cette partie-là, parce que ça va faire résonner un peu chez vous des choses. « Wajahidu fillahi haqqa jihadihi. » Vous reconnaissez un mot ?« Jihad », le jihad, le fameux jihad. Petite note, les Arabes chrétiens au Liban appellent aussi leurs enfants « jihad ». Ce n'est pas un nom réservé aux musulmans, parce que « jihad », c'est vraiment l'idée d'effort, « jihad ». Et donc ici, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit « efforcez-vous en Dieu du vrai de son effort ». Ici, l'idée, c'est que quel effort vous allez mettre pour vous rapprocher de Dieu ? Quelle est la dose, en quelque sorte, ou quelle est la quantité d'effort que vous allez mettre pour vous rapprocher de Dieu ? Quelle est la dose que Dieu mérite d'avoir, en quelque sorte, pour vous rapprocher de lui ? L'idée, c'est de dire, plus vous avez une conception du divin qui est celle qui nous donne les textes, et je ne parle pas que du Coran, plus l'effort que vous allez fournir, vous allez être prêt à fournir un effort aussi important. Et donc l'idée, c'est de dire quoi ? C'est de dire que dans la vie de foi, la foi ne peut pas se faire sans la notion, sans l'idée qu'on va faire justement des efforts, qu'on va s'efforcer. Donc ça veut dire qu'on va travailler, on risque de souffrir, pourquoi pas ? Mais ça fait aussi partie de l'effort. Alors attention, quand je dis l'effort, souffrir, etc., c'est, par exemple, comment faire pour rendre à une mauvaise action une bonne. Parce que le dire, c'est joli, mais au moment où ça nous arrive, le moment où quelqu'un agit mal envers nous, et qu'on se dit, ah ben là, il faudrait répondre de la meilleure manière, d'une manière plus douce, ou plus sympathique, ou plus belle, ah ben là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. C'est là où l'effort est très important. Donc, ça, c'est très important. La notion d'élu, quand la suite du verset « il vous a élu » peut poser question. Alors, ça ouvre à un nombre de débats théologiques assez importants. Je regarde combien de temps je parle, parce que je pense que si je me lance là-dessus, on est parti pour jusqu'à 16 heures. Hein. Après tout, pas la peine de manger. Vous vous rappelez de la blague de Jamel Debbouze ? Ramadan surprise. Bon, on peut faire ça, mais bon. Et donc, en fait, il vous a élu. Est-ce que ça veut dire que nous sommes élus de Dieu par la grâce de Dieu ? Alors, je sais que je suis chez les protestants, je vais aller très mollo là-dessus. Chez nous aussi, hein, c'est un grand débat, ne vous inquiétez pas. Et donc, la question, c'est est-ce que Dieu nous a élus ? Et dans ce cas-là, ben, on ne fait rien, on ne fait que recevoir la grâce, en quelque sorte. Ou alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, dans la perspective de ma maison, en quelque sorte, ce serait autre chose. L'élection, elle ne tombe pas dessus. L'élection, elle vient du fait qu'à partir du moment où vous êtes croyant, vous savez l'effort que vous allez faire, donc vous savez que vous êtes porteur d'un rôle, en quelque sorte. Et ce rôle-là fait que vous tenez une fonction, fait de vous des élus en ce sens où vous allez représenter, là je spoil un petit peu, mais vous allez représenter finalement le message divin. Vous allez, par vos efforts, par cette éthique que vous allez développer, notamment par le fait du bel agir, donc de répondre à une mauvaise action par une bonne action, vous allez être, en quelque sorte, le porte-drapeau et le représentant du message divin. Et en ça, c'est une forme d'élection. C'est d'autant plus vrai que le croyant ne vient pas, n'est pas, spirituellement parlant, issu d'une génération spontanée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis génération spontanée, c'est-à-dire qu'il est, il n'y avait rien avant lui, il arrive et tout à coup, il fait tout seul. Il est dans une lignée spirituelle. Et dans cette lignée spirituelle, il y a les sages, il y a les prophètes, évidemment. Quand le verset rappelle notre père Abraham, pourquoi Abraham? Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que dans une de mes dernières prédications ici, j'ai parlé de ça, du cheminement d'Abraham, et comment Abraham arrive finalement à Dieu un, unique. Et donc, il y a toute une démarche d'interrogation. Donc, c'est pour ceux que ça intéresse à la sourate 6, c'est l'Anaam, les troupeaux, les versets 74 à 81. Abraham rentre dans une démarche où il se pose la question, est-ce que Dieu, ce sont les astres? Est-ce que Dieu, c'est le soleil? Est-ce que Dieu, c'est... Et à chaque fois, il réfléchit, et puis il dit, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Et il arrive finalement au Dieu un, au Dieu véritable, en quelque sorte. Mais une fois qu'il est arrivé là, il ne s'est pas arrêté là. Parce qu'une fois qu'il est arrivé là, ben, il a quand même demandé, ouais, mais je veux quand même une preuve. Et donc Dieu lui répond, une preuve, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu ne me crois pas encore? Il dit non, non, je crois, il n'y a pas de souci. C'est juste pour tranquilliser mon cœur. Et donc, il y a toujours cet effort qui est remis, le travail, le cœur qui est remis à l'eau. Non, l'expression, je ne la maîtrise pas, ça va être catastrophique, mais c'est le travail qui est toujours refait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, ok, je sais qu'il y a Dieu, je crois en Dieu, mais quand même, je veux quelque chose de plus, je veux tranquilliser, donc je veux apaiser mon cœur, connaître une forme de sérénité. Et donc, le croyant, il est riche de ce savoir-là. Il est riche de cet enseignement-là. Alors, j'ai dit Abraham, et je pourrais aussi dire tous les autres prophètes, tous les autres maîtres de sagesse de façon générale. Et donc, le croyant se met dans cette lignée-là, cette lignée spirituelle, et il prend aussi cet enseignement-là, et il fait avec, en quelque sorte. Et pourquoi nous sommes tranquillisés? Pourquoi Abraham, finalement, il se tranquillise? Et pourquoi il a cette liberté, finalement, de demander à Dieu, bien qu'il ait... Il est atteint en quelque sorte et il finit par demander quand même, je veux tranquilliser mon cœur. C'est parce qu'il y a ici une véritable liberté dans le rapport qu'on a au divin. Par liberté, je veux dire par là que quand on parle des actes du culte, par exemple, l'aspect formel de la religion, la pratique, ou quand le faire le bien, etc., ce ne sont pas des choses qui nous sont imposées comme l'image du père Fouettard, c'est-à-dire que dès qu'on se trompe ou dès qu'on fait quelque chose, Dieu va nous punir, comme certains ont encore cette représentation-là aujourd'hui. Et le Coran il nous apaise à ce niveau-là. Il nous dit, par exemple, la fameuse sourate La Vache, au verset 256, « Point de contrainte en matière de religion, droiture est bien distincte d'insanité. » Ou encore, plus loin dans la même sourate, la dernière sourate du Coran, Dieu n'impose à une âme que selon sa capacité, en sa faveur ce qu'elle aura acquis, à sa charge ce qu'elle aura commis. C'est le verset 286, celui qui clôt la sourate 2. Autrement dit, quand on est croyant véritable, musulman, qu'on s'en remet à Dieu, on a d'une part conscience qu'on agit, qu'on doit agir bien dans ce rapport vertical avec Dieu, donc ça ce sont les actes du culte. On doit bien agir dans le rapport avec autrui, c'est le ihsan, comment on se comporte. Et on a cette tranquillité, c'est-à-dire le fait de se dire, ce que j'ai à faire, je peux le faire, et je le fais de façon tout à fait harmonieuse, parce que je sais que je n'ai pas à faire des choses que je ne peux pas faire. Je n'ai pas à faire des choses qui dépassent ma capacité. Et ça, tout ça, c'est pris en charge. Donc il y a ici une sorte de rapport de remise confiante à Dieu, où on est dans un complètement sérénisé, ça existe. En tout cas, apaisé, on est apaisé, et ça, c'est une notion qui est vraiment centrale dans l'islam. Alors, Et pour conclure sur ce verset-là, puisqu'à la fin du verset, il s'agit quand même de parler de que l'envoyé de Dieu, que l'envoyé soit votre témoin et vous les témoins des hommes. Cette idée-là, pour la comprendre, j'ai dû m'appuyer sur un chercheur, un coranologue, on appelle ça comme ça, spécialiste du Coran et de l'histoire du Coran et de l'islam primitif, qui s'appelle Mehdi Azaïez, qui est professeur à l'université de Louvain, et qui explique que le Coran s'adresse à trois publics. Il s'adresse d'abord au prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui et sa famille. Donc Mohammed, pourquoi ? Parce que c'est lui qui a pour tâche de communiquer aux autres. Et à travers le prophète Mohammed, il s'adresse à son premier public, en quelque sorte, donc ceux de l'Arabie occidentale du 7e siècle. Et puis il y a un troisième public, et là c'est nous. C'est-à-dire, quand je dis nous, c'est-à-dire tous les gens qui viennent après cette période-là, qui ne sont pas les témoins directs de cet échange, de la production en quelque sorte du Coran. Et ça se fait, quand je dis nous, ce n'est pas que nous ici, mais c'est-à-dire tous les gens qui sont venus après le prophète, après cet âge-là. Donc eux, le Coran s'adresse à la fois au prophète, au public via le prophète, et il s'adresse à tous les autres. Et il y a des passages dans le Coran où le Coran s'adresse explicitement aux croyants ou aux musulmans, et il y a des passages dans le Coran où le Coran s'adresse explicitement à tous les êtres humains, peu importe qu'ils soient croyants ou non. Le plus connu, c'est la sourate des appartements, la Hujurat 49, où le fameux verset « Ô humains, nous vous avons créés à partir d'un mâle et d'une femelle et fait de vous des nations et des tribus différentes afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus digne auprès de Dieu est celui qui se prémunit le mieux, ou celui qui est le plus pieux. » À vous de traduire. Donc vous voyez, ce verset-là, il est très connu et il est d'autant plus important que cette sourate-là, 49, elle est ce qu'on appelle une sourate testimoniale, c'est-à-dire qu'elle arrive à la fin de la révélation. C'est-à-dire que c'est vraiment, cette sourate-là, elle commence presque, tous les versets commencent par « Ô vous qui croyez, ô vous qui croyez » et au verset 11 de mémoire, c'est « Ô vous les humains ». Donc là, le Coran s'adresse à tout le monde. Donc à partir du moment où on prend l'idée que le Coran s'adresse à trois publics, donc il y a le prophète, il y a le public récipiendaire direct, c'est-à-dire ceux qui entouraient le prophète, et puis il y a nous à travers les âges. Et ici, ce qui est demandé, c'est que je reviens à mon histoire de le croyant qui est porteur du message, en fait, qui est représentant du message. Quand le verset dit que les croyants doivent être les témoins des hommes, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être la police morale une sorte d'inquisition pour vérifier que les gens y font ou y font pas. Non. Les croyants sont ceux qui sont les porteurs du message. Ce sont ceux qui disent, voilà, ce message, il existe. Voilà, la parole de Dieu, elle est là. Voilà comment on se comporte quand on est dans cette croyance-là et dans cette fidélité-là. Mais c'est la seule chose qu'il peut faire. Je reviens à mon fameux verset dont je parlais tout à l'heure. Nulle contrainte en matière de religion, droiture se distingue assez de l'insanité. Donc ici, vous voyez bien que ce rôle de témoignage, c'est voilà ce que c'est qu'être croyant, mais ensuite, les gens, ils sont libres de vivre comme ils veulent. Je crois que je fais un peu long. J'ai compris le regard. Donc, je vais quand même finir, j'essaie d'accélérer un petit peu. Donc, acquitter la purification. La purification, c'est le troisième pilier, c'est-à-dire la zakat. Et c'est vrai que c'est bien que Berck traduise par purification, parce que zakat, qu'on traduit le plus souvent par aumône légale, vous imaginez bien qu'il y a quand même un énorme hiatus entre dire aumône légale ou purification. Ça n'a rien à voir. La purification, zakat al-nafs, la purification de l'âme, c'est le fait de se détacher des biens. Mais ça peut aussi être le fait de se détacher de tout ce qui peut nous faire plaisir. J'aime mon temps de loisir parce que j'aime bien jouer à FIFA. Peut-être que si je lâche un peu, je fais ce sacrifice de temps de loisir pour peut-être prendre une heure pour faire des cours à des gens qui en ont besoin, voilà, ça, on se détache aussi de ce bien matériel. Donc la purification, c'est ça. On n'est pas le mot légal, la purification, c'est de se détacher des biens matériels. Donc ici, la fin du verset, c'est ça. Acquittez la purification, faites de Dieu votre rempart. Il est votre maître, heureux maître, et sur ce courant. Bon. Ça me paraît assez clair et évident. Et par besoin de gagner du temps, je vais aller à la suite. Je vais aller au deuxième verset, à la deuxième séquence plutôt. La deuxième séquence qui est celle tirée de la sourate Jonas. Donc ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire très vite. Tirée de la sourate Jonas qui dit, Moïse dit, « Ô mon peuple, si vous croyez en Dieu, eh bien, remettez-vous-en à lui, tawakkalou, pour autant que vous soyez de ceux qui se soumettent, muslimine. » J'ai gardé ici la traduction intégrale de Berck. Donc dans ce passage-là, ce qui m'intéresse, c'est la notion de tawakkul. Le tawakkul est en fait tawakkul. Et islam, c'est quasiment des équivalents, des synonymes. Tawakkalou, c'est vous en remettre à. Et muslimine, c'est ceux qui se soumettent à, mais je n'aime pas soumettre. Pourquoi je n'aime pas soumettre? Parce que, vous voyez bien que dans l'horizon de lecture français, en français, quand on dit soumission, on est quand même dans un rapport de chaîne. On est dans un rapport de « j'ai vraiment pas le choix, j'ai la contrainte, j'ai le couteau sous la gorge ». Alors que justement, tout ce que je suis en train de vous expliquer tout à l'heure, c'est que ce n'est pas le couteau sous la gorge. On est dans un rapport de confiance absolue envers le divin. On est dans un rapport où ici, on est dans un rapport de chaleur aussi. Je n'ai pas parlé du mot « rahmen » quand on commence... Tous les versets coraniques, toutes les sourates coraniques commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pour moi, c'est intraduisible parce que ça vient de Rahma. Rahma en arabe, si on revient à la racine trilitaire, le mot, c'est l'utérus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est là où l'embryon se développe. Donc, on rentre dans un champ lexical de développement, de protection, d'amour, de chaleur, de pardon, de miséricorde. Il y a toutes ces notions-là dans Rahma. Vous voyez? Et donc, la confiance, pourquoi on a confiance en Dieu? Parce que Dieu, il est Rahman ar-Rahim. Et il y a un verset où il dit « Inna Allah kataba ala nafsihi ar-Rahma ». Dieu s'est prescrit à lui-même ar-Rahma. C'est-à-dire que beaucoup de versets coraniques nous expliquent que Dieu est capable, est omnipotent. Si Dieu dit une chose, soit et elle est, nous dit le verset. « Idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun ». Donc, soit et elle est. La puissance de Dieu, elle est infinie. Dieu peut tout faire. On peut se dire que potentiellement, évidemment, il peut prendre le gentil, le mettre en enfer, et le méchant, le mettre au paradis. Mais Dieu, kataba ala nafsi ar-Rahma, il s'est prescrit ar-Rahma. Et donc, à partir de là, on sait qu'on est dans un rapport avec un maître sur ce courant et heureux, au sens où notre rapport à lui ne peut être qu'un rapport de joie, finalement. Alors, je sais qu'il y a une nuance entre joie et bonheur qu'il faut. Mais ici, l'idée, c'est de dire que quand on est dans ce rapport lien, de ce lien-là, un lien d'alliance, avec le Seigneur, on n'a pas peur. On ne peut qu'aller sans remettre à lui. Nous avons à faire les choses, ben on les fait, et puis après, le résultat, c'est autre chose. C'est ça le tawakkul. Vous avez un hadith, donc c'est un propos attribué au prophète. Un homme vient voir le prophète un jour parce que cet homme-là, il était travaillé, il ne comprenait pas en fait. Est-ce que Dieu décide de tout ou est-ce que finalement, on a une part de responsabilité dans ce qu'on fait? Et il lui dit, bon, très concrètement, terre à terre, lui dit « Ma chamelle, est-ce que je l'attache ou alors je ne l'attache pas et je me remets à Dieu ?»« Aqalha, je l'attache ou atawakkal, ou je me remets à Dieu. Qu'est-ce que je fais ?» Et le prophète lui dit « Attache-la et remets-toi à Dieu. » Aqalha ou atawakkal. Vous voyez ? Donc c'est vraiment l'idée qu'à partir du moment où on est dans ce rapport-là, on fait, on agit, on plante la graine et puis on ne pense pas à savoir si la pomme elle va être sucrée ou assez grande ou petite, etc. D'accord ? C'est vraiment ça, le tawakkul, c'est l'idée de « allez, on y va ». Et juste pour rappeler ça, qui fait confiance à Dieu, man yatawakkal, Dieu lui sera suffisance, Dieu toujours réalise ses fins, Dieu pour toute chose établit une mesure. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence, il y a une logique en tout, et à chaque fois, tout ce qu'on fait, ben, et dans notre mesure, et dans notre capacité, et dans à notre portée. Voilà, c'est ça l'expression. Tout est à notre portée. Alors, je vais zapper, je vais passer à la dernière partie, parce que là, je suis très long. Mais ça me tenait vraiment à cœur. La dernière sourate, le dernier verset que je veux analyser, c'est le verset 35 de la sourate 33, des coalisés. Je vous le dis en arabe, juste pour que vous la sonorité. En al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا أو الذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. En français, ceux et celles qui se soumettent, musulmans ou musulmates, les croyants et les croyantes, les dévotieux et les dévotieuses, les hommes et les femmes de véridicité, de patience et de crainte, ceux et celles qui font l'aumône, jeûnent, contiennent leur sexe, pratiquent assidûment leur appel, Dieu leur ménage son indulgence, un salaire grandiose. Ce verset-là, il a été révélé dans un contexte très particulier. Une des femmes du prophète qui s'appelait Umm Salama vient le voir un jour et lui dit « Au prophète, nous, les femmes, on pratique tous les commandements. On jeûne, on prie, on fait tout ce qu'il faut, etc. » Mais la révélation est toujours rédigée au masculin pluriel. Comment ça se fait ? Et donc le prophète, il dit, comme il n'aime pas répondre de sa tête, il dit « Bon, ben, je vais prier Dieu pour qu'il me donne une réponse appropriée. » Et alors qu'il était en prêche, un vendredi suivant, il était en prêche, donc imaginez en pleine chair, et il a ce fameux verset qui est révélé. Et moi, ce verset-là, à chaque fois que je le lis, j'ai toujours cette impression que, bon, c'est comme si, je vous dis ce qui se passe dans ma tête. Quand je le lis, j'ai l'impression que c'est comme si Dieu nous disait, bon, comme vous avez vraiment besoin qu'on vous dise les choses de façon très claire et nette, bon, bah, je vous l'ai dit, les musulmans, les musulmanes, en fait, il n'y a rien de nouveau. Dans ma formulation écrite, j'ai dit à un moment donné, ce verset, il est banalement révolutionnaire ou révolutionnairement banal. En fait, pourquoi ? Parce qu'il ne fait que dire ce qui est dans tout le texte. Sauf que là, il dit, bon, ben, comme vous avez besoin qu'on vous rappelle que ce qui est valable, c'est peut-être rédigé au masculin pluriel, mais en fait, c'est valable pour tout le monde, hommes et femmes. Donc, je vous le dis aussi, hommes et femmes. Et donc, ce qui m'intéresse énormément, c'est que on parlait du rapport au texte, on parlait de... Parfois, certains ont l'impression de s'approprier le texte et ils connaissent la vérité absolue. Et là, je parle vraiment des gens dans ma maison, entre guillemets, où on a des discours qui sont très machos, très misogynes, très patriarcaux, et qui font fi, en fait. En fait, ils utilisent ce verset-là quand ça les arrange. Mais ils font fi, en fait, de ce qu'il y a dans le texte. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que le premier mouvement musulman qui va réclamer l'imama, le droit à l'imama pour les femmes, et l'imama, ça a deux sens. Ça a le sens de l'imama à la mosquée, mais ça a le sens de calife, de chef d'État. Le premier mouvement qui va réclamer ce droit-là, il vient de... Le chef de ce mouvement-là, il s'appelait Shabib ibn Yazid al-Shaybani. Et ce mouvement, il date de 697. C'est-à-dire une soixantaine d'années après la mort du prophète. Vous voyez que par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur les femmes qui sont... Une bonne musulmane est une musulmane qui est enchaînée. Bon, ça, c'est moi qui résume l'idée. Hein. Je dis pas que c'est... Mais enfin, on dit quand même des choses qui vont dans ce sens-là. Et donc, je conclue. Pardon, désolé. Donc, pour répondre à la question initiale, est-ce que le mot musulman recouvre ce qu'on appelle musulman ? Évidemment non. Évidemment non. Le musulman dans le Coran est celui qui est dans une disposition d'esprit qui se caractérise par une foi vivante, qui englobe à la fois la vie culturelle et la vie pratique, celle du quotidien. Nous ne sommes pas des musulmans uniquement au moment du culte, mais tout le temps. Cela doit se traduire dans l'éthique, même du ou de la croyante, et dans cette attitude qui, ce qui marque le plus, c'est la confiance. La remise de soi dans une confiance absolue et totale envers son Seigneur. En somme, à bien y regarder, je crois que l'état de musulman en son sens coranique est l'idéal régulateur, l'objectif de tout musulman aujourd'hui. Alors oui, dans ce sens, les apôtres, Abraham, mais aussi Moïse, Jésus, Jonas, Mohammed, alayhi salam, sur eux la paix, étaient des musulmans, en ce sens-là, évidemment. Mais si on dit en sens de musulman, évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, et toujours, wa Allahu a'lam, et Dieu sait le mieux. Merci pour votre écoute et pour votre accueil et que la paix de Dieu et sa grâce et sa bénédiction soient sur vous tous. Merci.
Je vous invite à chanter le psaume 72. Et nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4. Voilà, je vous invite à vous asseoir et c'est Christine du Conseil presbytéral qui va partager avec nous les annonces ce matin. Merci Christine.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici présents ou présents par la technologie du numérique. D'abord, grand merci à Monsieur l'imam Fakhar Korshan pour cette belle prédication. Il nous a entrouvert les portes de sa maison. Les nôtres lui sont ouvertes aussi. Et merci beaucoup pour cette prédication qui nous a beaucoup instruits et réconfortés à une époque où le dialogue interreligieux est plus que fondamental. Vous avez aimé la prédication de l'imam Fakhar Korshan, alors ne partez pas, parce qu'il va nous présenter tout à l'heure le livre qu'il a écrit. Et c'est toujours exceptionnel de pouvoir dialoguer avec un auteur. Donc, restez avec nous après ce culte pour pouvoir prolonger ce temps d'échange. Merci à Sarah Kim, notre organiste de ce jour, d'accompagner musicalement notre culte. Excusez-moi, il y a beaucoup d'annonces aujourd'hui, c'est pour ça que je fais l'usage de mon petit pense-bête. Donc demain lundi 12, le groupe protestant des artistes, comme d'habitude, se réunit à partir de 10h à la maison presbytérale. Lundi 12 également, il y a le grec biblique niveau confirmé et les débutants, eux, auront leur séance le mardi 13. Mardi 14 à 19h, le groupe des jeunes va se réunir pour une soirée consacrée, alors, dont le titre du thème est « Respire, espère ». Souhaitons-leur que la météo leur soit favorable, car cette réunion aura lieu aux Tuileries, accompagnée d'un pique-nique. Voilà. Et souhaitons-leur que tout se puisse bien passer. Dimanche prochain, 18 mai, le culte sera partagé avec les enfants de l'éducation biblique. Voilà. Et je vous rappelle également, le mercredi 20 mai à 8h15, alors c'est très tôt, mais ça a une bonne raison, une des écoles du quartier va être rebaptisée au nom de Suzanne Spack, vous savez, l'une de ces personnes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont contribué à faire exfiltrer 63 enfants juifs et donc à les sauver de la déportation. Donc cette école se situe au 11 rue d'Argenteuil, dans le 2e arrondissement. Voilà. Mais on vous en reparlera dimanche prochain. Je crois que c'est très important aussi de marquer ce moment. Voilà, l'ensemble du conseil presbytéral, par ma voix, vous souhaite le plus beau des dimanches et une excellente semaine. Merci à tous.
Merci Christine. Et je passe la parole à un ancien catéchumène pour moi. On se connaît bien tous les deux. Et donc, je te laisse la parole pour que tu puisses nous présenter les activités pour lesquelles vous avez des choses à organiser, j'imagine.
Merci Béatrice. Alors, du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Castor. Je suis le chef de patrouille de la patrouille des Cobras à l'Oratoire du Louvre, donc juste à côté. Alors, vous l'avez peut-être entendu, mais cet été, ça va être compliqué. On n'aura pas vraiment un camp. Ce sera un mini-camp de 4 jours. Donc, on n'aura pas vraiment. Enfin, l'argent qu'on récoltera de notre sortie gâteau, qui se fait juste à la sortie, ne va pas être utile pour une exploration des alentours du lieu de camp. Cependant, on a dans notre patrouille des gros outils niveau matériel. Je pense notamment à notre tente, pardon, qui voilà. Camper, c'est un peu compliqué en week-end parfois, parce que. On prend beaucoup de temps à la montée parce qu'on a des soucis justement au niveau des piquets. Donc voilà, je compte sur vous, vos donations et pour financer ça. Donc on est juste à la sortie à droite quand vous sortez de la grande porte. On a du café, des petits muffins, des petits cookies. J'ai oublié le mot. Ça aide pas beaucoup, pardon. On a des petites tartes, des quiches. Donc voilà, c'est au prix libre, donc vous donnez ce que vous voulez donner avec vos envies et vos limites, évidemment. On vous remercie par avance pour tout ça. Et voilà, bon dimanche, si on se revoit pas.
Merci beaucoup. Oui, il y a des aléas dans le scoutisme. Hein. Parfois, il n'y a pas assez de chefs, parfois, il y a beaucoup d'enfants, mais il n'y a pas possibilité de faire de jumelage. Enfin, tout ça est compliqué. Il y a des lieux de camp à trouver aussi. Et donc, voilà, cette année, il y a un petit moment de vache maigre, on dirait. Hein. Mais ça va aller mieux, on en est certain. Vous faites tout pour que ça aille mieux. Voilà. Je vous invite ensemble à participer à un temps de collecte pour que cette église continue à ouvrir ses portes à nos invités, nos amis, et que nous puissions continuer à faire œuvre bonne dans ce monde. Merci. Je vous invite à la prière. Éternel, toi le Dieu polyglotte, tu parles à chacun dans le secret du cœur et tu nous réunis par ton esprit de fraternité. Aide-nous à vivre cette fraternité en parole et en acte dans notre société. Toi, le Dieu polyglotte, tu parles à tes enfants de diverses façons et pas un ne croit en toi comme son frère ou sa sœur. Aide-nous à comprendre cette relation de foi de chacun avec toi et garde-nous de toute intolérance. Toi, le Dieu polyglotte, tu nous ouvres l'esprit à ce qui nous est inconnu, impensé et parfois impensable dans nos propres catégories. Aide-nous à ne pas refuser d'entendre le récit d'autres réalités qui nous paraissent impossibles à accepter ou à comprendre. Rends-nous hospitaliers pour la parole de notre prochain. Toi, le Dieu polyglotte, tu nous as promis à la polyphonie en te faisant connaître de diverses manières. Aide-nous à saisir la chance que représente la diversité des religions et garde-nous de vouloir tout ramener à notre propre tradition de foi. Toi, le Dieu polyglotte, tu luttes pour que la langue de la haine ne vienne pas travestir les langues des croyants. Tu nous appelles à la sagesse, à l'amour et à la justice, pour que nous puissions vivre ensemble de nos différences et découvrir ainsi que tu es notre Dieu. Accorde-nous de ne pas céder sur l'exigence de la diversité. Toi, le Dieu polyglotte, tu te tais dans nos silences et tu veilles sur nos doutes. Aide-nous à traverser les moments de jachère où la terre de notre esprit doit se reposer de tout jugement. Accorde-nous la patience et la sagesse. Toi, le Dieu polyglotte, tu accueilles toute prière et toute révolte avec le même amour. Aide-nous à t'aimer et à aimer notre prochain avec la même constance. Et ensemble, nous pouvons dire la prière que Jésus a apprise à ses disciples pour qu'ils sachent demander à Dieu comme à un Père ce dont ils ont besoin pour leur vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, quand vous sortirez d'ici, souvenez-vous que vous avez pris le temps d'écouter une autre voix, une autre foi et d'autres mots pour les dire. Ainsi, vous pourrez témoigner qu'il est possible de s'entendre à condition de s'écouter, de se comprendre à condition de s'accueillir et aussi de ne pas se comprendre entièrement à condition de se respecter. Vous serez ainsi artisan de paix dans ce monde. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre et qui nous guide sur nos chemins et dans nos rencontres, vous guidera et vous bénit. Amen. bon dimanche à toutes et surtout nous restons ensemble pour ceux qui le peuvent pour présenter le livre de Fakir, donc l'épître aux musulmans perplexes. Voilà, merci Sarah, excuse-moi d'avoir repris la parole sans te prévenir. Bon dimanche à tous.